Bonjour, chers auditeurs. C'est avec une faim de loup que nous vous retrouvons comme chaque dernier jeudi du mois pour traiter de suspense. Vous avez tous entendu parler ces dernières semaines, en dehors de la guerre et des élections, des pizzas, des chocolats, des fromages contaminés par les bactéries. Voilà, vous avez deviné, le thème de l'émission d'aujourd'hui est l'alimentation. Depuis la nuit des temps, l'humanité a cherché à maîtriser sa nourriture. Les premiers hommes étaient des chasseurs-cueilleurs. Ils mangeaient la viande crue des animaux qu'ils tuaient. Des baies, ils cueillaient des baies, des racines, des feuilles. C'est au cours de l'histoire, avec l'apparition de l'agriculture, il y a 12 000 ans à peine, que leur régime alimentaire a changé. Ils se sont mis à consommer en grande quantité les céréales et les légumes secs qu'ils cultivaient et à boire le lait des animaux qu'ils domestiquaient. Depuis la fin du néolithique, l'homme a essayé d'assurer son bien-être alimentaire par le développement de l'agriculture et de l'élevage jusqu'à la modernisation de l'agriculture au XIXe et XXe siècle. Notre système alimentaire actuel en Occident est un système fondé sur une agriculture peu durable et génératrice de nuisances écologiques. Il est caractérisé par sa richesse en produits transformés par l'industrie alimentaire. Si vous consultez, si vous regardez ce qui compose tous ces produits, des émulsifiants, des conservateurs, etc. Depuis 1950-1960, sont apparus des contre-modèles de ce système alimentaire, exemple le régime végétarien. Pour mieux appréhender la question de l'alimentation, Marie-Claude a joué le reporter. Elle est allée interroger des artisans qui exercent des métiers de bouche. MC et Florence ont fait de même et vous entendrez les réponses d'un chef cuistot. Vous aurez aussi diverses chroniques qui vous seront présentées. Et au studio, Fabienne, la diététicienne, répondra aux questions de Lucette et de moi-même. N'oublions pas le conte de Lucette, la bonne nouvelle de Sylvie et le billet d'humeur de Michel. Le tout entrecoupé de musique et de dictons. Alors nous écoutons Marie-Claude.
La faim justifie les moyens, mais on a rarement les moyens quand on a faim.
Miam, 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 c'est bon.
Je suis Guillaume, je suis le responsable de la poissonnerie Borivage à Évreux. J'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le poisson. J'ai fait toutes mes études dans le poisson. Il y a 7 ans, on a repris la poissonnerie, relevé un chiffre d'affaires, un nouveau challenge et s'installer sur Évreux puisqu'on est la seule poissonnerie à Évreux. À la base, nous avons commencé notre activité sur Vernon, toujours dans l'Eure. Et on a fait le même principe, c'est qu'on a remonté un chiffre d'affaires sur l'entreprise de Vernon, et une fois qu'après c'était amorti, on a repris Évreux. Et donc voilà, ça fait 14 ans.
Donc à 14 ans, on voit certainement des changements, et de comportements des clients, et de marchandises aussi, de fournisseurs peut-être aussi.
Exactement. Il y avait une période où en fait, si on arrivait à faire un produit fini, c'est-à-dire un produit en filet, sans arête, sans peau, qui va vite à cuire, à moins de 10 euros le kilo, ça pouvait aller sur tous les ménages et tous les revenus. Or, aujourd'hui, avec l'augmentation du prix du gasoil, avec les taxes, ce n'est plus possible.
D'accord.
Ce n'est plus possible. Est-ce
que le Covid a eu aussi un fort impact?
Il y a eu un impact quand même, mais c'était plus sur un effet de panique. Plutôt que de servir un pavé de saumon à une cliente régulière, elle me prenait un kilo de peur.
Et donc après, elle est congelée ou quoi?
Exactement, exactement. C'était pour congeler, c'était pour faire des prévisions et c'était vraiment effet de panique, tout simplement.
Et quels sont vos fournisseurs? Vous allez vous approvisionner où?
Alors nous, on a la chance, on ne va pas à Rungis, on fait un petit peu de marée quand même sur la Bretagne, sur on reste sur nos côtes. Hein. On a la chance d'être à 1h30 des côtes. Donc, et après, on travaille avec 4 bateaux où on a de la pêche côtière pêchée et livrée dans la nuit.
Est-ce que le Brexit a eu un fort impact là aussi sur votre achalandage? Je sais pas comment on croit qu'on appelle ça comme ça. Hein.
Mais oui, bien sûr, ça a eu un effet, notamment c'était sur la coquille Saint-Jacques. C'était l'éternel problème. Après, il faut savoir que cette guéguerre-là dure depuis une vingtaine d'années. Et ce qui est, c'est que personne ne voulait se mouiller. Et les marins étaient livrés à eux-mêmes. Puisque nous, on a des quotas pour aller pêcher chez eux, que eux n'ont pas de quotas pour pêcher chez nous. Il faut savoir que nous, on est contrôlés sur le nombre de marins, sur la durée de pêche, sur la taille du bateau, sur la quantité, sur les quotas, surtout, que eux peuvent pêcher toute l'année. Donc c'est normal aussi que les Français aient dit stop au bout d'un moment.
Oui. Et le poisson dans l'alimentation des Français, pour ma part, et donc de votre clientèle, est-ce qu'elle a augmenté, changé? Comment ça s'est passé ces 10 dernières années?
Ces 10 dernières années, on a trouvé quand même qu'il y avait beaucoup d'évolutions. Ce qui est, c'est que par rapport à avant, on achetait du poisson entier et on prenait le temps de cuisiner. Que maintenant, tous les ménages travaillent, que ce soit monsieur ou madame, et il faut rentrer à la maison et que ce soit vite fait, bien fait, tout en se faisant plaisir hein, sur du poisson. Mais du coup, c'est que du poisson qui est déjà filté ou déjà désarrêté ou il n'y a plus qu'à mettre dans la poêle au final.
Donc la cuisine, la ménagère qui cuisinait le
par rapport au Covid, hein, les gens avaient plus le temps de faire à manger.
Oui.
Donc après, on a eu une petite bascule sur cette variante-là, mais on revient comme avant. Hein, il faut que ça aille vite fait, bien fait. Hein.
Vous savez, j'ai vu une partie traiteur aussi. Vous préparez vous-même un peu ou...
Donc on a un laboratoire de transformation. Et on fait exprès pour nos clients qui sont allergiques sans sel ou tout ça. Le principal du traiteur est sans conservateur, sans nitrite, sans quoi que ce soit. Et donc, c'est pour ça que moi, en fait, je m'accorde juste 48 heures de vente sur le traiteur. Donc, le vendredi et le samedi, là où on a le plus de débit et plus de clients.
Bien sûr, bien sûr. Et concernant la santé, est-ce que les clients viennent chez vous en disant « Bon, le poisson, c'est moins gras ça rentre plus dans un régime. »
Alors ça, c'était l'ancienne conjoncture.
Justement. Ah, vous voyez.
On veut du poisson pas gras pour faire du régime, pour faire des efforts, pour être bon pour la santé. Et ce qui est, c'est qu'en fin de compte, avec tout ce qui se passe actuellement, que ce soit, on va rentrer dedans, hein, sur la guerre aussi, que ce soit sur un aspect moral, que ce soit sur un aspect physique ou quoi que ce soit, notre plaisir qui nous reste, c'est la bouffe. Donc maintenant, poisson gras ou poisson pas gras, c'est pas grave, on se fait plaisir.
D'accord, oui. Et donc, on a entendu parler aussi un peu de pénurie de certains poissons ou de poissons dont les prix avaient fortement augmenté. Oui. Vous l'avez vu obligatoirement.
Oui, bien sûr. Ça paraît rien, hein, un degré sur l'eau. Malheureusement, les pêcheurs, s'il y a un degré de moins ou de plus, certains poissons côtiers ne vont pas se rapprocher des côtes pour se reproduire. Et du coup, les marins doivent aller plus loin pour les pêcher. Et avec l'augmentée du prix du gasoil, ils sont non rentables. Parce qu'ils ne sont pas sûrs de faire les coups de filet qu'ils veulent. Hein.
D'accord. Oui, on a vu même, je crois que c'est à Dieppe ou Fécamp, des bateaux qui ne sortaient plus, quoi,
exactement.
En fait. Hein. C'est ça.
Hein. Certains bateaux sortaient pour honorer leur commande. Et parce qu'ils avaient une trésorerie derrière qui permettait d'assurer, mais les assurances et les banques ne suivent pas derrière. Hein. Donc, il faut se mettre à la place de tout le monde. Mais globalement, oui, le poisson a pris 4 à 5 euros au kilo à l'achat en un an.
Et vous avez été
au début. Hein.
Et vous avez été obligé, bien sûr, de repercuter sur les clients.
Non, pas encore.
Pas encore.
Pas encore. Pas encore, mais c'est vrai que c'est déjà une matière très onéreuse. Et donc, on essaye de faire face pour l'instant, mais pour combien de temps, on ne sait pas, puisqu'on attend les décisions gouvernementales.
Est-ce qu'il y a des poissons qui sont, en remplacement de certains autres?
On essaye de faire des poissons de substitution, on va dire ça comme ça.
Voilà,
Mais ce qu'il y a, c'est que ça reste malheureusement ancré dans les habitudes. C'est soit pavé de saumon ou de cabillaud, c'est ce qu'on vend le plus. Mais les clients, même si on est bon vendeur, même si on est bon cuisinier, les clients sont quand même très réticents.
Mais j'en ai vu une dans votre étal tout à l'heure. C'était un poisson qui ressemblait un peu à une carpe, mais qui s'appelait la vieille, je crois.
Oui, 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 c'est ça.
Avec des jolies couleurs, d'ailleurs.
C'est ça, exactement, avec des belles couleurs arc-en-ciel. Bon, la vieille, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arêtes, donc ça, déjà, c'est rédhibitoire. Mais après, c'est un excellent poisson pour faire des soupes de poisson, pour faire des daubes, pour faire des bouillabaisse, et c'est des poissons que l'on retrouve très rarement, mais c'est des produits essentiels pour faire ces recettes-là. Il y a eu beaucoup d'évolutions sur les plats préparés, sur les plats cuisinés. On mange beaucoup de poissons, moins de poissons entiers, comme avant.
C'est,
regardez, là, on est la semaine sainte.
Oui.
Normalement, en morue salée, mes grands-parents étaient poissonniers. Morue salée, ils vendaient à la tonne. Moi, j'ai fait 25 kilos, et je suis sûr qu'il va m'en rester. Parce que c'était nos grands-parents qui faisaient ça et que les générations ont évolué. C'est une question de budget, hein, je ne sais pas. Hein.
Oui, il y a sûrement ça aussi. Plus de temps.
Il y a un pouvoir d'achat qui diminue généralement pour tout le monde, que ce soit n'importe quelle classe sociale.
Ouais. Merci beaucoup, Guillaume. Et bonne... comment on va dire ?
Continuation ?
Oui, voilà, c'est ça.
Faire ça comme ça.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci.
Merci Marie-Claude et notre poissonnier passionné. Mais au sujet de l'alimentation bonne ou mauvaise, n'oublions pas un problème qui frappe de façon inégale les populations, le surpoids et l'obésité. On peut lutter de façon douce pour son porte-monnaie où ça peut coûter plus cher. Et là, la gamme des procédés s'étend des pilules qui mangent les graisses au régime tout fait et autres salles de fitness tout onéreuses. Le marché mondial de la perte de poids atteindra 300 milliards d'euros en 2027. Il était de 175 milliards d'euros en 2017. En tête, l'Amérique du Nord avec 70 milliards, l'Europe représente le second marché potentiel. Aujourd'hui, la dépense mondiale se situe autour de 250 milliards d'euros, donc le PIB de l'Égypte ou du Vietnam. 10% de celui de la France, c'est dire. En 2020, les Français y ont laissé 3,5 milliards. En 2018, les chiffres d'affaires des fitness européens s'élevaient à 27 milliards. En France, le culte de la minceur a conduit à une explosion du marché de la perte de poids. Le régime comme j'aime, où on vous livre des repas diététiques tout faits, on envoie souvent la pub dans les programmes pour seniors vers 17h, génère au groupe 150 millions d'euros par an. Alors, décalé ou absurde dans notre monde de difficultés actuelles ou à venir? Voilà. Mais c'est aussi une source de profit, donc d'emploi. Tout est lié. Donc aussi porteur d'espoir de mieux-être. On perd ses kilos et on pérennise un secteur d'activité. Comme vous le constatez, cela a un coût. Le surpoids ou l'obésité conduit à une fracture psychologique avec la société. Le résoudre en termes de dépenses conduit aussi à une fracture sociale du fait de l'accessibilité qui s'induit souvent par le pouvoir financier. Il faut bien le constater. Bien ou mal, nous ne résoudrons pas la question ici. Bien sûr, cela peut paraître décalé, car en même temps existe la faim dans le monde, et même un risque de famine dû aux troubles politiques et aux dérèglements climatiques. Mais nous ne vivons pas dans un monde blanc ou noir, mais souvent gris. Mais qu'y faire ?
Celui qui mange vite, va vite à sa tombe.
Miam, 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 c'est bon.
Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne, merci d'avoir accepté de participer à notre émission. Dans le sommaire, Michel a dit que vous étiez diététicienne. Pouvez-vous préciser votre rôle, votre fonction ?
Oui, donc déjà bonjour à tous. Donc moi je suis diététicienne depuis maintenant plus de 30 ans à l'hôpital d'Évreux. Et nous sommes 4 diététiciennes sur l'hôpital et moi j'ai plus en charge la pédiatrie avec un secteur bien sûr en hospitalisation et puis après au niveau des consultations. Et puis je suis appelée aussi en oncologie hein, où là je fais des suivis également dans en conventionnel mais aussi en hôpital de semaine et puis en ambulatoire. Donc, c'est des patients que je vous revois régulièrement, hein, bien sûr.
quelle est la différence entre diététicienne et nutritionniste?
Ah, alors, ça, c'est souvent une question qu'on nous pose. C'est tout, ça fait une grande différence hein, parce que les diététiciennes, elles ont un bac plus 2. Donc, c'est soit un DUT, soit un BTS. Hein, donc, soit dans les lycées, soit dans des IUT. Les médecins nutritionnistes, ils sont en fait un cursus de médecins généralistes et ils ont une année de spécialisation en nutrition.
Michel nous a parlé à l'instant de régimes. Que pensez-vous donc de ces régimes? Et comment faire pour mettre en place un régime quand il est vraiment nécessaire pour la santé sans pénaliser le plaisir que l'on a à manger et le plaisir de se retrouver autour d'une table? Parce que manger, ça n'est pas qu'un besoin vital, c'est aussi un plaisir.
Tout à fait. Donc ça, c'est toute la difficulté des pathologies comme le diabète ou l'insuffisant cardiaque ou l'insuffisant rénal. C'est qu'on a souvent une multiplicité des régimes. Hein. C'est souvent des patients aussi, quand ils ont un diabète, ils ont aussi des problèmes cardiaques. Donc, se rajoute l'alimentation provençale. Donc, c'est toutes ces difficultés-là, c'est d'avoir des plurirégimes. Donc, on essaye vraiment de travailler avec le patient et on n'arrive plus avec notre petite feuille toute prête de régime. On va essayer de le connaître, de connaître ses habitudes, comme vous le disiez, l'environnement, parce que, bien sûr, il mange souvent avec d'autres personnes ou parfois, malheureusement, seul, ce qui aussi crée des difficultés. Parce que parfois, c'est des patients plus jeunes qui travaillent aussi, qui sont encore en activité. Donc, il va falloir aussi concilier ça aussi avec la restauration collective. On travaille aussi maintenant beaucoup plus avec ce qu'on entend parler d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on travaille avec le patient pour que lui s'approprie les conseils alimentaires. Alors, on ne parle plus de régime vraiment, on parle d'alimentation appropriée hein, finalement à la pathologie. Donc, on va négocier finalement avec lui, mais on va aussi faire en sorte qu'il s'approprie les conseils et que lui trouve les solutions. Donc, ce n'est plus à nous d'amener quelque chose de clé en main, mais on va essayer d'avoir un partenariat avec le patient pour que lui puisse effectivement s'en sortir dans la vie de tous les jours.
Alors ça, c'est pour les régimes, par exemple, sans sel, sans graisse, etc. Mais les personnes qui viennent vous voir simplement pour l'obésité et qui ont déjà, justement, mangé les pilules, qui mangent les graisses, voilà. Et c'est la même démarche, je suppose.
Alors, oui, tout à fait, exactement. On leur parle qu'il n'y a plus de régime, que les régimes font grossir, hein, globalement, par rapport à l'obésité. Donc, on va plutôt amener la personne à se poser la question pourquoi elle mange. Souvent, on mange, on mange par convivialité, on mange parce que c'est bon, on mange parce qu'on s'ennuie, on mange parce qu'on est angoissé. Donc, qu'est-ce qui, finalement, au niveau des émotions, va conditionner notre alimentation? Et on va les amener à faire ce constat-là. Donc, c'est vrai que des fois, il y a beaucoup de patients qui sont un peu déçus parce que si la première consultation n'apporte pas un petit régime clé en main, on perd peut-être un petit peu de patients. Mais par contre, ceux qui restent, ils vont avoir une vraie démarche, en fait, hein, pour se repositionner par rapport à leur alimentation. Donc, c'est super important et on va essayer d'avoir des partenaires, effectivement, d'aller plutôt vers la psychologue, d'aller plutôt peut-être vers une sophrologue. Alors, je dis une parce que c'est dans les métiers paramédicaux, il y a beaucoup de féminins. Préparateurs sportifs aussi, parce que ça peut être ça, c'est tout simplement se remettre en activité. Il y a des patients qui ne bougent pas, ils ne mangent pas forcément mal, hein, ils mangent super équilibré, mais à côté, ils ne bougent pas. Hein, donc, du coup, c'est ça aussi, c'est de les amener à faire un constat sur leur alimentation.
Et alors, qu'est-ce que vous pensez des alicaments?
Oui, alors les alicaments, normalement, quand c'est des aliments qui sont, par exemple, enrichis en vitamine C, enrichis en calcium, là, on a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'aliment santé. Après, il y a des aliments qui sont reconnus comme aliments, dits reconnus comme aliments médicaments et qui le sont un peu moins, qui n'ont pas de preuves scientifiques. Donc là, il faut se méfier de ces produits-là, notamment, je pense à certaines graisses de margarine qui sont dites pour baisser le cholestérol. Certaines sont intéressantes parce que c'est des huiles végétales et d'autres, elles ont justement le côté phytostérol qui n'est pas du tout prouvé par rapport à la baisse du cholestérol. Il vaut mieux avoir une alimentation saine et manger de tout, d'avoir des produits sains, très simples, hein, sans forcément aller chercher un enrichissement. Là, c'est plus valable pour des pathologies spécifiques. Hein, des personnes qui auraient vraiment une intolérance, par exemple, aux produits laitiers, et bien, d'avoir un substitut avec des jus végétaux enrichis en calcium, ça peut être intéressant. Voilà. Après, c'est vraiment une alimentation saine, sans trop d'additifs, comme vous l'avez signalé. C'est là l'aliment vraiment plus sain et plus intéressant.
Eh bien, nous allons nous arrêter quelques minutes pour écouter Alain Souchon.
Ton œil profondi d'algot en beau, des joues creusées haut, des rires roules, tourbillon des belles danseuses rêveuses, de la révolution en rend nerveuse, ton estomac intervalle tempo, ton dos gringo plus floréro, dans la crème chantilly les gâteaux, dans la crème chantilly les gâteaux, le fond qui m'a donné le pas dans le cœur, c'est la trouvée pour dans le temps, tout ça, 60 kilos des cheveux des poètes.
Je ne sais pas si nous sommes foutus et si nous mangeons trop, mais il est vrai que, je ne sais pas, Fabienne, si vous rencontrez justement des gens qui sont légèrement ronds ou vraiment obèses, qui sont mis à l'index de la société. Parce que les besoins alimentaires changent en fonction des âges aussi. Donc, voilà, je voulais vous parler une deuxième question après, mais là, au niveau justement des enfants qui rencontrent des problèmes au niveau de l'obésité, comment ça se passe, est-ce qu'ils ont des difficultés justement à s'intégrer dans leur groupe d'école, quoi.
Alors oui, bien sûr, par rapport aux consultations en pédiatrie, ça fait souvent partie de la demande principale. C'est avant tout, ils veulent être bien, ils veulent être comme les autres, ils veulent pas forcément perdre du poids, ils veulent pas forcément changer d'apparence, mais ils veulent être comme les autres. Donc c'est souvent la première chose qui est citée chez les enfants quand ils disent pourquoi ils viennent consulter, c'est parce qu'on se moque d'eux à l'école. Et malheureusement, de plus en plus tôt. Hein. Donc là, bah, avant, j'avais plutôt des enfants qui me parlaient de ça fin primaire, début du collège. Et on s'aperçoit que de plus en plus jeunes, les enfants sont stigmatisés. Et des petits de maternelle qui sont effectivement traités de gros, hein, qu'on met de côté dans la cour, avec qui on ne joue pas. Et c'est vraiment la première cause, hein, à part les parents qui vont parler plutôt de la santé. Mais pour les motifs de consultation pour les enfants, c'est effectivement les moqueries à l'école. C'est le regard des autres, des pères, PAIR.
Alors ça, c'est pour les enfants. Maintenant, il faut ne pas trop manger, mais les besoins varient avec l'âge. Et on entend souvent parler de la dénutrition chez les personnes âgées. C'est un autre problème. Est-ce que vous avez l'occasion de rencontrer des personnes dénutries et quelles sont les solutions qui leur sont proposées?
Alors oui, évidemment, on rencontre des personnes dénutries puisque la population vieillit et elle vieillit aussi à l'hôpital. Donc automatiquement, dans tous les services, hein, pratiquement, en plus des maladies chroniques comme par exemple l'oncologie, on rencontre bien sûr beaucoup de problèmes de dénutrition. Alors on est appelé régulièrement maintenant par rapport à ça, hein, ça fait vraiment partie de notre quotidien. On a peut-être à peu près 50% de nos prises en charge qui sont liées à la dénutrition. Alors ce qui est déjà encourageant, c'est que l'hôpital maintenant prend en compte effectivement cette pathologie, parce qu'il faut savoir que c'est une maladie. Il y a eu la semaine de la dénutrition en novembre dernier, maintenant elle est faite chaque année, où on essaye de sensibiliser le personnel par rapport à la dénutrition. Donc plus elle est faite en amont, hein, elle est même prévenue, ce qu'il faut c'est éviter qu'elle apparaisse, sachant qu'en milieu hospitalier on dénutrit aussi encore plus, parce que ça ne correspond pas forcément à leur mode d'alimentation, si on ne tient pas compte des aversions, des allergies alimentaires et puis des habitudes, on va dénutrir d'autant plus le patient. Donc c'est important de pouvoir prévenir ça en essayant de respecter leur goût, et puis après malheureusement quand la dénutrition elle apparaît, eh bien faire en sorte que la diététicienne soit prévenue assez tôt, qu'on puisse en mettre en place des solutions d'enrichissement, de compléments alimentaires, et malheureusement quand ça ne marche pas, on est amené à avoir une nutrition entérale ou voire parentérale, hein, pour combattre et faire en sorte que le patient ne soit plus dénutri.
Je peux poser une question naïve, peut-être entérale?
Oui, pardon, c'est vrai. Aïe. J'avais dit pas de mots techniques et puis ça rattrape. Donc en fait, c'est une alimentation que l'on passe souvent par un petit tuyau qui passe par le nez, hein, qui arrive au niveau de l'estomac le plus couramment et qui nourrit la personne de façon artificielle avec des protéines, des lipides, des glucides, donc c'est-à-dire du gras et puis un petit peu de viande, un petit peu de produits laitiers, mais tout ça dans des poches d'alimentation.
Hein. D'accord, merci Fabienne.
Et alors, qu'est-ce que vous pensez justement des conseils nutritifs dont on nous abreuve? 5 fruits et légumes par jour, par exemple.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est les enfants, hein, qui retiennent bien. Hein. Ils savent nous le dire en consultation. Ils chantent même la chanson. Après, ces slogans-là, oui, ils sont amusants pour les enfants. On ne sait pas trop quoi en faire. C'est repris par les industriels souvent pour nous dire, voilà, dans une toute petite bouteille de jus de fruits, on nous met 5 fruits et légumes. Voilà, dans 100 grammes, par exemple, ou 100 millilitres de produits, c'est pas ça, en fait. Hein. Le message, des fois, il n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on attend. Donc, souvent, on est obligé de reprendre un petit peu les slogans qui ont été imaginés au niveau grand public, parce que c'est souvent pas forcément compris. Donc, quand on dit 5 fruits et légumes par jour, bah, c'est une quantité. Et ça veut dire 500 grammes, à peu près, de fruits et légumes par jour. Mais c'est vrai que ces messages-là sont pas toujours faciles, ils sont retenus, ils sont scandés, mais qu'est-ce qu'on en fait au bout? Je suis d'accord avec vous.
Surtout que le prix des fruits et légumes, c'est quand même, ils sont toujours en augmentation, et je pense que ça doit créer des problèmes chez les personnes à faible revenu.
Quoi. Tout à fait, tout le monde ne peut pas s'en acheter facilement. Donc souvent on essaye de donner des astuces pour que les gens fassent les fins de marché. Souvent en fin de marché, les marchands, les primeurs, voilà, souvent bradent les produits, d'essayer d'aller sur des fruits de saison aussi. Souvent c'est aussi malheureusement des personnes, quand ils n'ont pas beaucoup de moyens, achètent encore beaucoup de viande, et souvent des viandes de moins bonne qualité, mais qu'ils payent quand même encore assez cher. Et on essaye de dire que la viande, le poisson, les œufs n'est pas obligé d'être consommé en grosse quantité. Donc on peut être amené à réduire un petit peu cette quantité-là au profit des fruits et des légumes. Après, il faut les influencer pour qu'ils essayent de cuisiner un petit peu plus ces légumes, donc en donnant des idées de recettes pour qu'ils les apprécient. Hein. Souvent, c'est aussi parce que les parents n'en mangent pas, que les enfants n'en mangent pas, et puis après, ça fait une chaîne sans fin. Donc on essaye, oui, effectivement, de leur donner le goût, hein, d'aller vers des légumes et des fruits de saison et locaux. Hein. Si on peut les acheter de manière locale, ils seront meilleurs et ils auront envie de les manger et de les apprécier.
Et justement, pour les personnes qui travaillent, pour qui il faut que ça aille vite, est-ce que les surgelés peuvent être une bonne utilisation?
Tout à fait. Hein. Quand on parle légumes verts et fruits, on parle aussi conserve, on parle aussi surgelés. À partir du moment où on les recuisine un peu, c'est très bien, bien sûr.
Bon, eh bien, merci Fabienne. Vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission.
Avec plaisir.
Voilà, parce que peut-être aurez-vous envie d'intervenir ou peut-être on sollicitera votre avis sur les articles qu'on va développer maintenant. Je laisse d'ailleurs la place à MC sur la malbouffe. Oui, mon cheval de bataille dans ma famille, la malbouffe. La malbouffe englobe une réalité bien plus large que la consommation de fast-food. Il s'agit d'avoir une mauvaise alimentation en consommant des produits de mauvaise qualité, nuisibles à la santé, qu'on appelle les additifs. Trop riches en sel, trop riches en sucre, en graisse, avec des conservateurs, colorants artificiels, épaississants, avec de faibles apports en fibres et en vitamines, bourrés de produits chimiques. Ces ingrédients n'ont aucune valeur nutritionnelle et portent un nom de code commençant par un E. 340 additifs alimentaires sont ainsi autorisés. Ils sont largement employés par les industriels pour remplacer les matières premières et faire baisser les coûts de production. Il faut bannir les plus dangereux d'entre eux. Les produits salés, ultra transformés, sont parfois moins chers, avec trois fois moins de produits alimentaires nutritifs. Sans oublier les boissons gazeuses. Ils sont accusés de favoriser l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains cancers et autres maladies, donc du mal à long terme. Il est important de limiter ces aliments. Il existe le 21 juillet une journée mondiale de la malbouffe. Il faut apprendre à se réconcilier avec la nourriture, ne pas perdre notre relation positive en cuisinant. Autant cuisiner maison et choisir des ingrédients de bonne qualité, maîtriser les quantités de sel et de graisse. On peut utiliser l'application gratuite qui s'appelle Yuka, utilisée par plus de 16 millions de personnes et qui permet de scanner et vérifier la composition des produits alimentaires et débusquer les additifs. Malheureusement, il y a une inégalité sociale dans la consommation alimentaire. On nous dit de manger 5 fruits et légumes par jour. Seul un Français sur 5, parmi les statistiques, peuvent se le permettre. Je ne veux pas oublier les méfaits de la malbouffe chez les enfants, sur leur croissance, sur les troubles de l'attention, sur leur sommeil et sur leur hyper-réactivité. Si 15 ou 20 minutes passées en cuisine avec votre enfant à préparer un repas tout simple, ramener la paix, la sérénité et un bien-être dans sa santé. Pensons-y. Heureusement, le consommateur est de plus en plus vigilant de bons produits, de quantité et de qualité. Il n'existe ni aliment interdit, ni aliment miracle. Bien manger, c'est adopter une alimentation variée et équilibrée. Manger de tout en quantité adaptée. Issue de circuits courts si possible. Faire le plus soi-même. Bon appétit à tous. À suivre par Florence et moi-même, la rencontre avec un chef de cuisine d'un restaurant d'Évreux.
Monsieur Roussel, la petite Gavelle à Évreux, un établissement qu'on a repris il y a maintenant 4 ans avec Anthony Lefrançois, donc qui est mon associé.
Quelle est votre politique au niveau de l'alimentation dans vos restaurants?
Donc au niveau de la politique alimentaire, on travaille vraiment que sur du fait maison. Donc le jeudi 14 là, qui arrive, on va nous remettre le titre de maître artisan, maître restaurateur. Il y a eu une enquête de fait par des professionnels et à partir de cela, ils nous ont décerné le titre de maître restaurateur, justement parce que on fait tout maison, un circuit court avec des producteurs plus ou moins locaux et puis des poissonniers d'Évreux, des produits de qualité avec aussi des professionnels, des vrais professionnels qui sont en cuisine. Et ce n'est pas de l'assemblage, en fait, on fait tout nous-mêmes.
Que pensez-vous de la surconsommation et du gaspillage alimentaire?
Alors, justement, si jamais on pouvait manger mieux, plus sainement et moins souvent des produits transformés, je pense que justement, nous, notre démarche était dans ce point-là, puisque maître restaurateur, en fait, on fabrique tout maison. Et les gens pourraient exactement faire aussi chez eux, c'est-à-dire fabriquer un petit peu plus eux-mêmes, cuisiner plus eux-mêmes, moins acheter des produits déjà tout faits ou finis. Et comme ça, on consommerait peut-être mieux localement, et moins sûrement, parce que manger, vous avez des gens qui ne peuvent plus se passer, par exemple, de manger des produits carnés, c'est-à-dire de la viande tous les jours. On peut se passer largement des produits carnés tous les jours. On peut en manger même des quantités un petit peu moindres, mais de meilleure qualité, pour faire travailler justement nos producteurs locaux. Voilà, c'est ça. En fait, c'est la démarche d'un maître restaurateur, c'est de pouvoir apprendre aux gens des habitudes alimentaires ou même consommer des produits qu'ils n'ont pas l'habitude de manger.
Avez-vous envisagé de faire un atelier alimentaire pour un peu former vos clients?
Alors, il fut un temps où, avec l'office de tourisme, on avait fait un cours de cuisine pour quelques personnes. Et à la suite de ça, on a eu énormément de demandes. Mais malheureusement, le manque de temps ne me permet pas de pouvoir faire des ateliers. On l'a envisagé même encore il n'y a pas longtemps. On ne sait pas. Peut-être qu'un jour, on va réussir à trouver un petit peu des créneaux pour pouvoir le faire. Il y a une énorme demande de ce côté-là. Les gens sont vraiment ont envie d'apprendre des choses de personnes entre guillemets professionnelles dans leur métier. Et il n'y a pas que moi, hein. Il y a dans la restauration, mais vous avez dans la pâtisserie, vous avez dans la boulangerie, vous avez des tas de choses à apprendre, les charcutiers aussi. Et c'est vraiment ce manque de temps qui nous pêche un petit peu. Sinon, oui, on aimerait le faire, pouvoir faire profiter le savoir à des gens qui ont envie d'apprendre des petites choses pour pouvoir justement manger mieux.
À propos de savoir, est-ce que vous accueillez des apprentis chez vous ou est-ce que vous avez du mal à les recruter?
Alors, il y a eu des années où on n'avait vraiment pas de mal on a toujours eu des apprentis en fait. On essaye de faire une auto-formation, c'est-à-dire que les apprentis que l'on forme, on essaye d'en garder. Moi, j'ai une partie de l'équipe qui était des anciens apprentis. Mais maintenant, on va dire que depuis cet épisode de Covid, le recrutement dans les métiers de bouche, métiers manuels, voire d'autres métiers, devient un petit peu plus compliqué. Donc, les apprentis, on aimerait en avoir, mais on est un petit peu en manque justement de ces jeunes qui voudraient vraiment trouver un métier. Parce que dans la restauration, vous savez que si vous démarrez un apprentissage, vous savez aussitôt derrière que vous avez un métier, et à l'heure actuelle, avec la flambée des commandes et des salaires, vous savez que vous avez un métier qui est très très bien payé dès l'âge de 19 ans, parce que vous sortez d'apprentissage, vous avez 18-19 ans, et on est en manque de main-d'œuvre partout en France, voire dans le monde entier, et vous savez tout de suite que derrière votre apprentissage, soit l'entreprise vous embauche là où vous étiez, ou alors vous pouvez aller quelque part et on va vous proposer du travail, mais n'importe où, en France ou dans le monde entier.
À quoi ressemblera l'alimentation de demain ?
Là, c'est une bonne question parce que on voit malheureusement avec l'histoire du Covid, moi j'ai fait venir un petit marché bio tous les vendredis devant la petite gabelle. Et c'est dommage parce qu'en fait on a l'impression que les gens ont un petit peu la mémoire courte. C'est-à-dire qu'il a très très bien marché pendant la période Covid où tout était fermé. Les gens, on avait l'impression qu'ils voulaient retrouver une alimentation vraiment locale et puis avec des petits producteurs. Et là, on voit une désaffection totale, même à l'heure actuelle, de tous les marchés bio, marchés normaux. C'est ça qui est triste, parce que les gens repartent un petit peu pas dans la malbouffe, mais dans les circuits de distribution, comme les grandes surfaces ou des choses comme ça, alors qu'ils avaient des petits producteurs qui se fracassent tous les jours pour proposer des fruits, des légumes, de la viande, des œufs de qualité. Et là, actuellement, ces gens-là souffrent énormément de la désaffection, justement, de toutes les personnes. Donc, j'espère vraiment que les gens ne vont pas oublier, vont récompenser un petit peu ces personnes-là qui nous ont donné à manger pendant la période Covid. J'aimerais bien qu'ils retrouvent un petit peu le chemin des marchés bio, des petits producteurs locaux. Ils ont vraiment besoin d'aide, je pense, de tout le monde.
Effectivement, ce petit marché bio, moi, j'ai pu en profiter et c'était vraiment une bouffée d'oxygène dans cette période. Et en fait, malheureusement, c'est vrai que j'ai appris depuis qu'il y en a un qui a fermé. Est-ce que vous pensais pas que c'était une question aussi économique.
Alors, il ne faut pas croire ça, parce qu'en fait, quand vous voyez le gaspillage que les gens ont dans leur frigo, vous savez que vous pouvez très bien aller tous les jours ou tous les deux jours chercher des légumes frais, un petit producteur ou un petit maraîcher, ou alors même une petite épicerie. Et vous mangez beaucoup mieux et beaucoup moins. C'est-à-dire que avoir un frigo plein, ça ne sert strictement à rien de nos jours. Généralement, les gens rangent leur frigo, on va dire. Il y a des choses qui sont derrière, au fond, ou dans un bac. Et ils les retrouvent 4-5 jours après. La date est tout juste limite. Vous avez des dates de péremption quelquefois courtes. Et quelquefois, des choses partent à la poubelle. Il vaudrait mieux acheter vraiment, presque pas le jour, mais presque. Et puis, consommez mieux.
On ira faire un petit tour dans la cuisine tout à l'heure, discrètement. Merci beaucoup.
Il s'agit d'un fruit bien crado, où les mecs par-dessus le calando se rincent la cloison au crochet maison, un bordeaux, pas piqué et un ton. De temps en temps, il y a un vieux plus jeune qui s'offre un vieux jambon au vieux beurre. Et puis une nana, une jolie drôlesse, qui lui vend son magasin à fête. Au Cavoyo, le patron s'appelle Bruno. Il a de la graisse dans les dix, des gros points noirs sur le pif. Quand Bruno fait le menu et le sait, les premières douleurs au dessert, l'estomac à genoux qui demande pardon, les boyaux qui tricotent et l'apprend, les rotules de grand-mère et du beurre, à côté du petit steak comme vapeur. Si avant d'entrer, il te reste une molette, à conseil, tu la laisses au bestiaire. Au Cavoyo, le patron s'appelle Bruno. Sa femme est morte il y a 3 mois, d'un ulcère à l'estomac. Dans le quartier, même le mois le plus doux, vous ne risquez pas d'entendre miaou. Des graissiers mignons, il n'y en a plus baiser, ils sont tous devenus terribles du chef. Je me souviendrai longtemps d'un casier qui voulait à tout prix du gibier. Il chuta avant de sucer les os, les moustaches en croix sur le carreau. Au Cavoyo, le patron s'appelle Bruno. Il envoie les postillons, ça fait les yeux dans le bouillon. Sois prudent, prends bien garde au fromage. Son camembert a eu...
Je pense que tout le monde a compris que le Cavoyo était bien loin de notre restaurant hébroïcien. Merci à Pierre Perret pour avoir mis tout son humour dans ce restaurant. Il y a longtemps, très loin, il y avait un fakir et son disciple. Plutôt son serviteur, parce que le disciple devait mendier, travailler pour le fakir du matin jusqu'au soir. Et s'il avait le malheur de se plaindre qu'il était fatigué, le fakir disait tout de suite: « Mais de quoi te plains-tu? C'est une bonne fatigue. Cette nuit, tu dormiras bien. Tandis que moi, avec toutes mes responsabilités, penser pour toi, décider pour toi, ça perturbe mes nuits. » Et puis, si le disciple se plaignait d'avoir faim parce qu'il n'avait droit qu'à une petite galette le soir, le fakir avait une réponse. « Jeûner ou être sobre élève l'esprit. » Mais le disciple pensait que tous les jours se dire « j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, je voudrais bien manger, j'ai faim » n'était pas naturellement porté à élever l'esprit bien haut. Mais ce soir-là, le fakir a appelé son disciple et lui a dit « demain, c'est la fête au village. Sans nul doute, on va faire à manger dans toutes les maisons, y compris des pâtisseries, et tu vas aller mendier dès le matin, et ce que tu rapporteras, puisque c'est la fête, je t'en donnerai la moitié. » Oh bien, je peux vous dire que le lendemain matin, dès l'aube, le disciple est parti. la maison du fakir était un petit peu éloignée du village et quand il est arrivé près du village, le disciple a tout de suite senti les bonnes odeurs de miel, d'amandes. Oh, il se régalait à l'avance. Il a mendié et sur les coups de midi, il avait 16 belles galettes dorées à souhait dans son panier. Il a décidé qu'il était temps pour lui de rentrer. Mais sur la route, il sentait toutes ces bonnes odeurs. Oh, se dit-il, mon maître est un homme de parole. Alors, il m'a promis la moitié de ce que je rapportais. Il tiendra sa promesse. Alors, sur 16 galettes, il y en a 8 pour moi. Après tout, je peux bien commencer à les manger maintenant. Alors, il a goûté une galette. Il avait faim. 2 galettes, 3 galettes. Il a mangé ses 8 galettes. Et il a continué son chemin. Mais vous croyez qu'il était rassasié? Pas du tout. Les 8 galettes qu'il venait de manger, ça avait été comme un apéritif. Ça lui avait ouvert l'appétit. Personne ne lui dira qu'il y avait 16 galettes. Il va croire qu'il y en a 8. Alors, il y en a 4 pour moi. Et aussitôt, eh bien, il a consommé sa part. Il ne restait plus que 4 belles galettes dans le panier. Et comme il a continué son raisonnement, bientôt il n'y a plus que 2 galettes dans le panier, puis une galette. Et là, il s'est dit, j'aurai droit à la moitié d'une galette, mais je vais laisser le maître me la donner, la moitié de galette. Puis il était arrivé. Quand le fakir a vu la seule galette qu'il y avait dans le panier, il est rentré dans une colère terrible, tout fakir et tout sage qu'il était. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les villageois n'ont plus aucune générosité, même les jours de fête. Mais c'est honteux. Le disciple était un homme honnête, alors il a dit à son maître, « Mais maître, ils ont donné plus que ça. J'avais 16 galettes. » « Comment ça, 16 galettes? Mais où sont-elles, les 16 galettes? Qu'est-ce que tu en as fait ?»« Je les ai mangées, » a dit le disciple. « Comment ça, tu les as mangées ?» Et là, on a vu le disciple prendre délicatement entre ses doigts la dernière galette qui restait. Il a ouvert grand la bouche et hop, il a avalé la galette. Comme ça, a-t-il dit à son maître.
Je vais vous parler sur la permaculture. La permaculture est une démarche philosophique. Le but est de prendre soin de la nature et des hommes et de partager équitablement. Elle va devenir une valeur prisée alors que les énergies fossiles vont diminuer. La personne que j'ai suivie dans ce choix de vie a travaillé pendant plus de 10 ans à Paris. Elle est devenue végétarienne et ensuite végane. Elle achetait ses légumes dans les associations qui les vendaient en circuit court. Elle décide de s'intéresser à la permaculture. C'était un plaisir de suivre ses recherches, de voir l'évolution de ses plans de travail, l'étude minutieuse de la terre, ainsi que celle des pépiniéristes pour les graines qui allaient lui servir pour ses semis. Car tout ceci doit être bio et traçable. Le pas franchi, elle s'installe. Bravo, ce n'était pas une évidence de respecter la nature et de nourrir les gens. Non, c'est juste pas ça. Le sol a besoin de beaucoup de respect, certes, mais si on en fait un métier, il faut en vivre. La terre est basse et si on ne met en pratique pas de polluants, il faut entretenir à la main. Semis, plantations, les journées sont bien remplies et les récoltes parfois aléatoires. Car le temps joue un rôle très important. Trop de pluie, les semis coulent. Trop de soleil, ils cuisent sur place. Et ceci malgré le paillage pour réduire les arrosages, ce qui est très important pour la consommation de l'eau. Lors des récoltes, il faut prendre ce qui a poussé. Car les mêmes légumes se développent différemment et n'ont pas le même calibre. Mais après tout ceci, quel plaisir de se mettre à table et de déguster sa production, de retrouver le vrai goût de chaque aliment et savoir que tout ceci est sain. La permaculture représente la sagesse face à notre monde actuel, sans contrôle strict.
Nous sommes dans la boulangerie.
Reporté sur ces 10 ou 20 dernières années. Dans notre métier à nous, la boulangerie-pâtisserie, aussi juste comme si vous étiez un peu tout le monde dans notre équipe, c'est-à-dire toujours évoluer sur des nouvelles recettes en pâtisserie, en viennoiserie, même le pain. Vente additionnelle au niveau des vendeuses, c'est leur but aussi. Est-ce que vous avez vu une évolution d'achat, de consommation, de produits achetés aujourd'hui? Comme je vois à midi, même en traiteur, on a doublé notre chiffre dans le sens où les gens le midi, ils ne peuvent pas manger. Et même le soir, on a des personnes qui vont chercher des quiches, des pizzas, des croûtes monsieur, des pokéballs. On sent qu'il y a un changement quand même dans la vie de chacun. Et est-ce que on parle beaucoup d'inflation en ce moment. Est-ce que vous êtes impacté par l'inflation et les prix qui ont augmenté des matières premières? Bien sûr, sur les matières premières, on a pris 20% d'augmentation. Sur d'autres, c'est minime. Mais les produits qu'on consomme le plus, comme la farine, la levure, les œufs, le lait, le beurre, hein, tout ça, ça a bien augmenté. Bien sûr, vous avez été obligé de répercuter quand même un petit peu. Alors, moi, j'avais augmenté ma baguette à 1 euro symbolique, parce que c'était mon envie déjà depuis un an ou deux de le faire. Elle est à 1 euro. Je ne l'augmenterai pas. J'estime que quelque part, augmenter tout, c'est. Voilà, je me mets aussi à la place du consommateur. Est-ce que la notion de santé, de bien-être, de régime, entre guillemets, bien sûr, mais de santé principalement, et fait partie des choix de votre clientèle? Oui, tout à fait. On a beaucoup augmenté aussi sur la fabrication des pains spéciaux, énormément. Tout ce qui est base de complet, base de dipping, c'est-à-dire le pain à base de farine de campagne complète et le vin. Tous ces pains-là, au niveau digestif, tout ça, et régime, ces personnes-là consomment énormément de pain comme ça. Les pains maïs aussi, énormément. Voilà. Et on arrive un peu à la fin. Et d'abord, je vous remercie beaucoup m'avoir prise comme ça un peu au beauté. Comment vous voyez la suite maintenant de votre métier? Alors, la suite, aujourd'hui, n'est pas simple parce qu'en fait, de se projeter vers le futur, parce que, bon, on a eu quand même. Nous, on est implanté en centre-ville, on est vraiment dans le cœur de la ville, c'est-à-dire qu'on est à un emplacement très très bon. J'adore mon emplacement actuel. Je dirais qu'on a eu quand même quelques grandes enseignes qui se sont implantées autour de nous, ce qui est bien dommage. Pour moi-même, avoir été agente au commerce, je trouve que ça a été compliqué pour moi cette année vécue, alors que j'aurais jamais pensé qu'on aurait autant développé de boulangerie que ça. J'estime que c'est dommage, vraiment. Je trouve qu'au niveau de l'artisanat, au niveau du centre-ville, y a des commerces qui se perdent énormément. Et nous, j'espère que la boulangerie, un jour, parce que la part du gâteau se réduit, évidemment. Donc, on se protège, on fait très attention. On n'a pas les mêmes conditions qu'eux. Au niveau des centrales d'achat, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut faire attention tous les mois. Je dirais même toutes les 3 semaines, il faut faire très, très attention à notre budget. Voilà. Donc, je trouve que c'est dommage qu'on ait implanté autant de boulangeries pour si peu de nombre de personnes qui habitent Évreux. Madame, je vous remercie beaucoup et vous nous avez dit beaucoup de choses.
Et maintenant, nous vous proposons Sylvie.
Bonjour. Allez, une petite approche zen de ce sujet. Une bonne alimentation, comme nous l'avons vu, passe bien sûr par des produits de qualité. Elle doit être équilibrée, saine, de saison, tout en pouvant rester très simple. Toutefois, cuisiner, manger en pleine conscience optimise les bienfaits des nutriments. Je vous explique. Il ne s'agit pas d'une technique à proprement parler, mais juste d'une façon d'être pleinement présent à ce que l'on fait, ce que l'on prépare, en appréciant chaque aliment, par sa couleur, sa forme, sa texture. De plus, cuisiner sans stress, non seulement allie le plaisir de se concocter un bon petit repas, mais savez-vous que la qualité de nos pensées émises pendant la préparation sera non seulement agréable au sens gustatif, mais bénéfique pour notre santé? Un exemple. En Inde, les nourritures préparées par les brahmanes sont réputées pour leur qualité énergétique. Une fois à table, il est judicieux de manger sans que des pensées négatives viennent perturber notre plaisir. Évitons de penser à autre chose, de parler de sujets qui fâchent, sinon, faire une pause et reprendre le cours de notre repas. Car ici aussi, soyons présents en appréciant chaque bouchée, chaque saveur. D'ailleurs, la présentation des mets a également une influence en renforçant notre sensation de plaisir et de respect de la nourriture. Que nous soyons seuls ou accompagnés, une jolie table, même toute simple, n'est-ce pas agréable? Alors, soyons un exemple pour les enfants et prenons soin de nous quand cela le permet, bien sûr. Un temps pour soi, un temps pour les autres, un moment de partage avec ceux qui nous sont chers et apprécions avec gratitude ce que la nature nous offre si généreusement et en toute simplicité.
La santé commence dans l'assiette.
Miam, 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 c'est bon.
Et à présent, dans la chronique des bonnes nouvelles de ce mois, je vais vous parler d'une belle initiative de l'association Crowd Farming et d'un sujet d'actualité qui nous touche. Pour info, l'association Crowd Farming a été créée par des agriculteurs. Il s'agit de ventes directes de produits alimentaires entre agriculteurs et consommateurs. Pour en revenir à notre sujet, près d'un million d'Ukrainiens ont traversé la frontière de l'Ukraine à la Pologne. Une fois sur place, ils ont été accueillis par des associations caritatives et des familles polonaises qui les aident à surmonter cette épreuve. En mars dernier, donc, l'association Crowd Farming, grâce à un premier camion contenant 16 000 kilos de fruits bio donnés par des agriculteurs, est arrivé dans la ville de Lesask, à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. L'objectif étant d'envoyer des produits frais et non périmés. Cette initiative s'appelle le Crowd Giving, giving donné. Elle permet à des personnes dans le besoin de recevoir des produits frais de qualité directement des exploitations agricoles partenaires. Pour info et pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site www.crowdfarming.com.fr. Et Michel, maintenant, le billet d'humeur du mois, c'est quoi?
Eh bien voilà, ce que je vais vous dire est trop grave pour l'appeler un coup de gueule. C'est une démonstration qui est malheureusement prouvée dans les faits que je vous expose, l'invasion de l'Ukraine. Voilà, face à l'idéologie clairement exprimée par l'État russe et en analysant tous les signes qui se présentaient, la guerre était-elle certaine? Bien malin qui pouvait le dire avec certitude dans nos populations. Depuis 20 ans, et son arrivée démocratiquement, au pouvoir de Poutine, il affiche clairement sa volonté de faire prévaloir à l'intérieur et à l'extérieur de la Russie sa vision du monde et sa conception du pouvoir. À l'intérieur, il impose un régime autoritaire où toute divergence d'opposition et d'opinion conduit en prison, et à l'extérieur, une politique impérialiste et expansionniste sur la Tchétchénie, la Géorgie, la Moldavie et diverses petites régions voisines, et aujourd'hui donc l'Ukraine. Le tout en imposant une idéologie qui tend à mobiliser son peuple autour d'une vision nationaliste avec une fibre passéiste, quasiment raciale, en opposition radicale à une voie décadente selon lui de l'Occident. Des propos que nous entendons malheureusement chez nous. Suivez mon regard, même si ce n'est pas radiophonique. Et Alors, me direz-vous, quel rapport avec l'alimentation ? Eh bien, primordial. La Russie et l'Ukraine figurent au rang des principaux producteurs de blé et autres céréales de la planète. La guerre a donc déstabilisé le marché mondial en créant une pénurie et l'augmentation des cours mondiaux. Ce blé, souvent exporté en Afrique et au Moyen-Orient, fait craindre dans ces régions des émeutes de la faim. Et ça déclenche aussi, nous pouvons le constater hier et aujourd'hui en Asie, des problèmes sur l'huile de palme. Une situation qui aggravera le manque de fertilisants, dont la Russie est le premier exportateur mondial. Ce produit riche en azote est passé de 250 euros la tonne en 2021 à 1000 euros en avril de cette année en France. Si on rajoute l'augmentation des prix du carburant essentiel à l'agriculture moderne, voilà tous les éléments qui font craindre le retour de la faim dans beaucoup de pays émergents, où l'alimentation représente la principale dépense par rapport aux revenus. Voilà pourquoi il nous faut garder une vision d'avenir de notre monde conforme au droit et à l'humanisme, ce qui n'est pas contradictoire avec une défense ferme et assurée de nos valeurs.
Nous espérons que notre émission ne vous aura pas laissé sur votre faim. Quoi ? La faim dans le monde ? Oui, c'est vrai, nous aurions pu en parler. Mais c'est un sujet si vaste que nous avons pensé qu'il pourrait faire l'objet d'une autre émission. En attendant, n'hésitez pas à cuisiner des produits locaux de saison et à partager avec qui vous voulez des plats bien équilibrés. Alors pour manger, bien manger, c'est bon pour la santé, mais c'est là aussi bon pour les relations sociales. Partager un bon repas entre amis ou entre collègues ou entre membres de la même famille est un plaisir pour les sens. Mais c'est également un moyen d'enrichissement des relations sociales. C'est ce qu'on appelle la convivialité. Et à ce propos, n'oublions pas Guy, un ancien partenaire dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Coucou Guy, bon anniversaire! La nourriture peut être aussi spirituelle. Et je vous annonce l'ouverture d'une exposition sur des éclipses, une exposition photographique qui va se tenir sur la place de Navarre au passage des Arts. L'inauguration a lieu samedi prochain à 17h30. La culture, c'est une aussi une nourriture de l'homme. Au revoir, chers auditeurs.
Bonjour, alors là nous sommes dans la cuisine donc de la petite gabelle où alors nous avons plusieurs personnes qui sont intéressées à préparer donc les repas. Alors qu'est-ce que vous faites hein?
Je fais des salades,
Voilà, donc là nous sommes à la préparation du poisson. Du rhum steak. Voilà, aujourd'hui, c'est donc le plat principal. Le plat du jour, c'est donc poisson ou alors rhum steak. Et madame, vous préparez des salades ou les assiettes?
Vous touchez les décos, les dernières.
Et alors, vous, vous êtes au service?
Oui, moi, j'envoie les plats.
Donc là, aujourd'hui, là, tout de suite, c'est un peu calme, en fait.
Oui, c'est calme. C'est du service, mais en midi, 13h, ça. Exactement.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup, bon courage, et puis à plus, au revoir.